Je vous avais promis de faire un suivi sur la campagne de vaccination. Puis là, on le sait, à 13h aujourd'hui, nous serons d'ailleurs en diffusion en direct tout à l'heure. Il y a ce point de presse pour faire le point sur la grande campagne de vaccination qui va commencer au Québec. Ça va se passer au Stade olympique, entre autres, à Montréal. Il y aura le ministre de la Santé, Christian Dubé, le premier ministre du Québec, François Legault, le docteur Arruda, là, qui seront là à 13h pour vous expliquer tout ça. En attendant, nous, on fait le suivi là, depuis qu'on en parle, là, depuis la semaine dernière. Vous avez été très nombreux à m'écrire là-dessus. On s'en est parlé hier pendant une heure. J'aurais pu faire l'émission complète là-dessus tellement vos appels étaient tous intéressants, pertinents. Et effectivement, je vous entends, vous vous posez la question. Comment ça se fait que moi qui suis, vous là, qui êtes peut-être sur des immunosuppresseurs, qui devez composer avec une maladie chronique, comment ça se fait que vous n'êtes pas considéré prioritaire, que vous êtes au 8e rang, quasiment juste les avant-derniers avant la population en général. Beaucoup de gens se disent, c'est pas normal, je devrais être priorisée. Hier, il y avait une médecin, la docteure Henault, qui a un peu été rassurante tout de même, il faut quand même se remettre ça en tête. Elle nous a dit, c'est l'âge qui est le facteur numéro un de risque par rapport au virus COVID. C'est vraiment l'âge. Alors, l'âge passe avant la maladie chronique. Toutefois, pour mon invité que je vous présente à l'instant, c'est peut-être pas suffisant comme explication. Louise Turcotte est mère de Sylvain, qui a 37 ans. Il est autiste. Il est également malentendant. Il vit en résidence intermédiaire. Louise Turcotte a écrit justement à la Direction générale de la santé publique pour avoir des précisions. Elle est avec moi. Bonjour, Madame Turcotte.
Oui, bonjour.
Expliquez-moi. Vous êtes infirmière à la retraite, alors vous connaissez bien toutes les questions de santé. Hein? Vous êtes à même de savoir certaines choses plus que la moyenne des ours. Expliquez-moi rapidement un peu la situation que vous vivez avec votre fils de 37 ans.
Ben c'est ça. C'est que moi, j'avais écrit à Santé publique, j'avais écrit à Lionel Carman en premier, le 13 janvier, pour savoir la priorisation de mon fils pour la vaccination, parce que c'était priorisé, mais on ne savait pas à quel rang. Finalement, j'ai eu une réponse hier du directeur général, M. Daniel Paré, qui disait priorité 8 en même temps que les 60 ans et moins avec maladie chronique. Ce qui fait que eux autres, depuis mars 2020, ils sont confinés à la résidence intermédiaire. Ils n'ont pas de centre de jour, d'activité physique. Ils n'ont absolument rien depuis presque un an. Ils sont confinés à la résidence, sauf exception. Et ils étaient parmi les personnes vulnérables en mars 2020. Là, ils sont devenus des personnes moins vulnérables avec la vaccination. Je comprends pas l'incohérence, pourquoi ils l'étaient en 2020 puis là, ils sont plus pour la vaccination. Fait que là, on se retrouve que dans Charlevoix, il y en a qui ont été vaccinés dans les RIRTF de la clientèle autiste et autres handicaps. Et nous, à Québec, on reste priorité 8, alors que si on est dans le même CIUS de la capitale nationale, je ne comprends pas pourquoi ces contradictions.
Mais oui, puis hier, justement, j'avais beaucoup de gens là, qui se plaignaient de ne pas être priorisés, avec des états de santé aussi qui pouvaient les inquiéter, oui. Des maladies chroniques, des gens là, qui sont sur des antirejets comme des greffés ou qui ont des maladies qui mettent en péril leur système immunitaire ou qui fragilisent leur système immunitaire. Mmh. Bref, tous ces gens-là, mais qui étaient à domicile, qui disaient, ben, je suis pénalisée parce que je suis à domicile. Vous, votre fils est en résidence intermédiaire. Oui. Normalement, dans les ressources intermédiaires ou de type familial ou les CHSLD, à la rigueur, ça pourrait être priorité 3. Là. Ça serait rang 3 au lieu de rang 8.
Ben, c'est ça que je comprends pas, parce que vu qu'il avait été dans les personnes vulnérables en même temps que les personnes âgées au printemps 2020, pourquoi que les RIRTF, il y a des personnes âgées qui vivent dans ces résidences, pourquoi eux autres sont priorisés, je comprends, sont confinés aussi, mais nos jeunes qui vivent dans des RI en déficience intellectuelle ou en autisme, eux autres, ils sont pas priorisés. Il aurait dû faire toutes les RIRTF pour les déconfiner au maximum le plus tôt possible. Ça fait un an. Eux autres, ils comprennent rien de la réalité de la pandémie. Mm-hmm. Et de plus, là, ils parlent de réouvrir les centres de jour en mars 2021, vu qu'il y a moins de cas à Québec. Mais en même temps, ils sont pas vaccinés. Fait que, d'où l'importance. Ça fait un an qu'ils les empêchent d'aller à leurs centres de jour, à leurs activités. Puis là, tout d'un coup, il y a moins de cas. Là, on va déconfiner. On va les renvoyer en centre de jour à temps partiel, une journée semaine probablement, mais ils ne seront pas vaccinés. Donc, eux autres, ils ne sont pas capables de comprendre la distanciation physique, le masque, cette clientèle-là. Donc, on va voir très peu et peut-être qu'ils vont se s'infecter au niveau du centre de jour ou autre, le transport en commun, la STAC, tout ça, ils vont peut-être être infectés et ça va refermer à nouveau. Oui. Moi, je ne comprends pas. Ça fait assez longtemps qu'ils sont délaissées, ces personnes-là. Je voudrais vraiment qu'ils soient mis en priorisation.
En fait, ce que vous dites, Mme Turcotte, c'est pas tellement pour sa santé physique, Louise Turcotte, que vous vous inquiétez pour votre fils. C'est que vous vous dites, dans le fond, c'est que ça le coupe de toute stimulation, de toutes ces activités qui sont importantes pour lui. Parce que à la rigueur, il y a bien des parents d'autistes qui pourraient dire, l'autisme, c'est un trouble, c'est pas une maladie. La surdité, c'est un état aussi. Donc, il n'y a pas forcément plus de risque à attraper la COVID, mais c'est tout le reste, dans le fond.
Mais ça, c'est que, tu sais, je parle pour toutes les autistes, puis les personnes déficientes intellectuelles, les autres handicaps physiques ou autres, c'est que ces personnes-là sont confinées, puis le fait de ne pas avoir de stimulation, ça amène des problèmes de comportement, ça amène des problèmes de plein de choses, puis ça fait un an qu'ils sont comme ça, fait qu'ils sont en déconditionnement, ce qui fait que, moi, pourquoi je ramène cette question-là, quand j'ai eu la lettre hier, j'étais comme offusquée en me disant, priorité 8, c'est bien, bien malheureux, mais c'est ben trop loin, ça aurait dû être fait. Pourquoi Charlevoix l'ont fait? Parce que c'est une plus petite région, puis ils ont vacciné tant qu'à être là, mais pourquoi Québec, c'est pas la même priorisation qu'à Charlevoix. On est dans le même sillon. Je comprends pas ce bout-là, là, vraiment. Là. C'est des contradictions pour moi.
Oui, tout à fait. Au moins, il vous a répondu, Daniel Paré, le directeur de la campagne de vaccination.
Oui, j'ai été surpris d'avoir une vraie réponse de sa part avec sa signature, mais ça reste que ça a pris un mois avant une réponse parce qu'il priorisait. Mais moi, la priorité que je trouve qu'ils ont donnée, c'est 8 sur 10. 8, mais dans le bas de la liste. T'sais. C'est pas une priorité. Pour moi, c'est quasiment en bout de ligne. Là.
Oui, tout à fait.
Pour moi, c'est...
Donc là, vous allez faire quoi? Vous allez attendre votre tour avec votre fils, c'est ça?
Ben, je vais attendre mon tour, mais ça ne m'empêche pas de décrier ça partout.
Complètement,
tout
à fait. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faudrait changer?
Ouais. Oui, pardon?
Dans le fond, il y a de plus en plus de gens qui disent qu'il faudrait peut-être changer l'ordre de priorité. Là.
Oui, moi, c'est ça que j'aimerais, qu'ils revisent l'ordre de priorité pour certaines clientèles, autant les immunosupprimés. Je comprends tous ceux qui sont en danger de vie ou de mort s'ils attrapent la COVID, tu sais, puis les autistes, puis les personnes... toute autre clientèle vulnérable, parce qu'ils l'étaient à la première vague, ils étaient vulnérables, puis là, ils ne sont plus. Je ne comprends pas leur façon de voir les choses.
Merci beaucoup, Louise Turcotte, de nous permettre de parler de ça puis de faire le suivi. On va vous souhaiter bonne chance. On va voir si il y a des choses qui vont être annoncées là-dessus. On va passer tout de suite à Benoît Masse, qui est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Il a participé il y a deux mois, justement, à l'avis là, pour la priorisation de vaccination. Bonjour, Monsieur Masse.
Bonjour.
Expliquez-nous un peu comment s'est fait cet ordre de priorisation.
Ben, en fait, on regarde les besoins les plus criants. Un des facteurs, ben, on le sait, c'est l'âge. Là. Plus on est vieux, plus on est à risque de vraiment des conséquences graves d'une infection, que ce soit les hospitalisations, les décès. Bon, ceci dit, l'avis là, était quand même écrit en novembre. Et même depuis ce temps-là, il y a eu quand même des changements. On avait peut-être oublié, vous vous souvenez, les personnes proches aidantes. Et là, à un moment donné, on a dit, ben on devrait monter en priorité ces gens-là et on les a vaccinés. Si vous regardez aussi ce qui va arriver dans la campagne de vaccination qui débute en grande, là, si on veut, la semaine prochaine, ben déjà, Montréal va avoir une certaine priorité. Déjà, le ministre a annoncé que, ben, étant donné la situation à Montréal, on va commencer par vacciner ici. Alors, c'est certain que les priorités, elles sont pas coulées dans le béton. Ça peut changer. Et même, on a vu au fédéral, en début de la semaine passée, qui, eux aussi, émettent des priorités de vaccination, ont monté en priorité le personnel qui travaille dans les services essentiels et qui sont en contact avec le public, là, les chauffeurs d'autobus, les caissiers, les caissières, les magasins, les épiceries.
C'est ça, on a changé l'ordre pour ces personnes-là. On les a priorisés, on les a mis beaucoup plus près. Là, je pense qu'ils sont dans le rang 1 de mémoire, hein, c'est ça? On les a mis.
Oui, ils ont monté avant d'autres groupes. On va les vacciner avant les 60-69 ans. Et ça, c'est des recommandations fédérales, mais le Québec n'est pas obligé de suivre ces recommandations-là. Mais
va les suivre?
Oui, ce serait malaisant de ne pas les suivre, là, je vous dirais. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que il y a aussi là, ce qu'on attend, là, c'est vraiment la réponse de Santé Canada, à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec AstraZeneca. Parce que ça, soudainement, on pourrait avoir beaucoup plus de doses déjà en mars et avril dans AstraZeneca, ce qui permettrait à Québec de dire, bon, écoute, Là, il y a des groupes, là, j'ai bien entendu l'appel de Mme Turcotte qui je comprends très, très bien, là, de dire c'est vraiment excessivement difficile pour plusieurs personnes au Québec là, qui sont vraiment coincées, donc, je dirais, depuis mars à isoler, et ainsi de suite, et puis d'attendre jusqu'à juin, juillet ou août pour se faire vacciner, arriver son tour, c'est beaucoup trop long. Et je suis entièrement d'accord. Sauf que pour l'instant, on a, vous le savez, donc, à date, là, on a eu les doses au compte-gouttes. Et on est allé vacciner vraiment les besoins les plus criants là, qui sont dans les RPA, les CHSLD. Mais ça, c'est à veille d'être fini. On sait que les CHSLD, c'est déjà fini. RPA, ça devrait finir cette semaine. Et là, après ça, avec peut-être d'autres doses qui arrivent, notamment AstraZeneca, là, peut-être ça va donner certaines ouvertures à Québec, de dire, bon, OK, là, il y a des groupes là qui ont peut-être des besoins beaucoup plus urgents. Donc, il ne faut pas désespérer, je vous dis.
Mais est-ce qu'on le veut, le AstraZeneca? Il y a de plus en plus de gens qui me disent, moi, je vais pouvoir choisir mon vaccin, parce que là, il y en a tellement de plus en plus. Benoît Masse, des vaccins, là, ils vont sortir tout à l'heure, il va quasiment y avoir moins de COVID puis plus de vaccins. On ne va pas savoir quoi en faire. Toujours ça, hein? Là, on a Pfizer, le Moderna au Québec, AstraZeneca. La communication sur AstraZeneca est comme mal parti. Hein. On a comme dit au début que c'était 62 % d'efficacité pour finalement dire ben c'est quasiment 100 % face aux formes graves de la COVID. Mais il y a des gens qui disent « Moi, je ne le veux pas, l'AstraZeneca. » Vous en pensez quoi, vous, de ça?
Ben, c'est certain que lorsqu'ils ont fait l'essai clinique, il y a eu une certaine erreur dans le dosage et ça a créé ce message-là où on a une efficacité relativement à base pour un sous-groupe, puis élevée pour un autre sous-groupe, c'est clair que ça porte à confusion. Mais je vous dirais, là, moi, si l'AstraZeneca vient disponible, je n'y serai pas deux secondes.
Vous le prenez aussi, oui, c'est bon.
Je le prends aussi. il est sécuritaire aussi.
Est-ce qu'on va pouvoir savoir quel vaccin on va nous donner la semaine prochaine?
Ça, par exemple, je pense pas qu'initialement qu'on va avoir le choix là, de dire non, moi je veux le Pfizer, je veux le Moderna. Vous allez prendre votre rendez-vous sur Clic Santé.
Ouais, oui, je pense qu'on va prendre ce qu'on nous donne, là, mais mais est-ce qu'on peut au moins poser la question puis savoir ce qu'on nous.
Là, vous pouvez dire finalement je reçois-tu le Pfizer, lequel que je reçois, là. Tout ça pour dire que si jamais, il faut dire là, dans ce qu'on prévoit comme campagne de vaccination, on a juste inclus Pfizer Moderna, c'est-à-dire ceux qui sont approuvés au Canada. Et on pourrait avoir d'autres qui viennent et ça pourrait permettre, comme on disait à Québec, de dire de considérer d'autres groupes qui... il faut dire, un des avantages des groupes, là, comme ce que décrivait le fils à Mme Turcotte, c'est qu'ils sont pas, on parle pas de millions de personnes. Donc, c'est plus facile de dire on va prendre un groupe de personnes qui sont en besoin, mais sont relativement, c'est 30 ou 40 000 Québécois. C'est plus facile de dire on va les monter en priorité parce que ça, lorsqu'on va commencer à recevoir 2, 3 ou 400 000 doses par semaine, c'est quelque chose c'est des engagements qu'on peut prendre. C'est sûr, c'est plus difficile de dire on va monter un groupe qui est beaucoup plus nombreux. Ça veut dire, si on fait ça, on ne pourra pas vacciner un autre groupe.
Oui, voilà, c'est ça. Hein? C'est pour ça qu'on appelle ça une liste de priorisation. C'est qui les met avant les autres. On va s'arrêter ici. Benoît Masse, vous restez avec nous, bien sûr. Benoît Masse est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je vous rappelle qu'il a participé donc à la vie pour la priorisation de vaccination. C'est vraiment intéressant là, d'avoir toutes ces informations-là. On parle à la bonne personne pour bien vous indiquer comment ça marche. Je vous rappelle qu'à 13h cet après-midi, on aura plus d'explications par rapport à comment ça va fonctionner, cette grande campagne de vaccination. En attendant, je veux vous redonner nos numéros. 514-790-9850. 1-866-790-9850. On va aller tout de suite à vos commentaires. Vous me direz si vous craignez de ne pas pouvoir être priorisé alors que vous estimez mériter passer avant les autres. À tout de suite. On fait le suivi là, sur notre dossier campagne de vaccination. Qui devrait-on prioriser? Il y a Serge qui nous appelle, qui est atteint par la fibrose kystique. Bonjour, Serge. Serge, vous êtes là? On vous donne la parole, on vous écoute. Bonjour. Serge était là il y a quelques secondes. On essaye une dernière tentative. Ah, vous êtes là? Vous m'entendez bien, Serge?
Oui, oui, oui.
Oui, il faudrait baisser votre radio, s'il vous plaît.
OK.
On vous écoute, Serge.
Oui, bonjour. C'est concernant les gens qui sont atteints au poumon, comme la fibrose kystique et puis le MPOC. Moi, je suis atteint de la fibrose kystique, puis j'ai aucune nouvelle quand est-ce qu'on va avoir une première dose.
Mm-hmm.
J'ai aucune idée. J'ai communiqué avec mon médecin pas tellement longtemps, et puis même eux autres, ils ne savent pas. Ils attendent la liste officielle, puis attendent les vaccins surtout, là.
Merci.
Ouais, qui va être traité en premier ou pas, là.
Merci beaucoup, Serge. Effectivement, je pense que c'est la question que bien des gens se posent. On a Lina au bout du fil. Bonjour, Lina.
Oui, bonjour. Moi, je vais dans le même sens que la dame, la proche aidante qui a parlé tantôt.
Oui.
Moi, je suis responsable de ressources intermédiaires. J'ai deux résidences. Et si on pense qu'on va vacciner massivement avec la façon dont ils sont en train de gérer les choses depuis une semaine avec le palais au palais des congrès.
Mm-hmm.
On est supposé, tout le monde dit qu'on est priorisé avec les RPA, tout le monde dit qu'on est vacciné avec les RPA, ce qui n'est pas vrai. On nous a dit au début, toutes les résidences RI vont se faire vacciner cette semaine. On mm-hmm. a eu trois lettres contradictoires l'une de l'autre. Au début, c'était tout le monde qui allait se faire vacciner. Un autre email, non, finalement, les 65 ans et plus. Après, ils reviennent à la charge. Et samedi, on reçoit confirmation que non, uniquement les 65 ans et plus, même si c'est les personnes vivent dans des résidences,
mm-hmm.
ils vont pas pouvoir se faire vacciner. J'ai perdu 2 demi-journées avec le Palais des Congrès pour prendre rendez-vous. Pour mes usagers, pour ce jeudi. 2 demi-journées pour prendre rendez-vous pour 6 usagers seulement avec leur accompagnateur. On nous demande de les emmener au Palais des Congrès, des polyhandicapés, déficients intellectuels, et j'en passe.
On ne peut pas se déplacer? Il n'y a pas des agents vaccinateurs qui pourraient venir sur place?
Non. J'ai sur 18 usagers... le trois quarts est polyhandicapé.
Ah.
Je vais les emmener au Palais des Congrès. En plus, ce qui nous fâche, c'est qu'on va même pas faire l'opération une seule fois. Donc là, je vais me déplacer avec 6. Après, on va me dire, OK, les 55, 60 ans, je sais pas. Je vais retourner encore avec quelques
usagers. Je comprends le va-et-vient là, que vous allez devoir gérer, alors que ça serait peut-être mieux. Des fois, c'est plus simple d'amener quelqu'un là où il y a le plus grand nombre de gens à vacciner, effectivement. Merci, Lina. Il y a Michel là, qui a la fibrose pulmonaire. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour, Madame Maréchal. Mon nom est Michel, comme vous le savez. Moi, j'ai une fibrose pulmonaire idiopathique.
Mm-hmm.
C'est assez rare comme maladie. Je fais partie de ceux qui ont la fibrose kystique et l'MPOC. Mais je peux vous mentionner que je suis traité par un médecin de famille et je suis traité aussi au CHUM
mm-hmm.
à tous les 3 mois. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a aucun plan pour des personnes comme nous. Puis là, je veux pas être passé avant tout le monde, mais j'aimerais ça qu'il y ait un plan clair du gouvernement afin de prioriser, mettons, les personnes qui sont les plus à risque.
Ouais.
Moi, je vis dans une bi-génération, j'ai des petits-enfants, on s'isole, mais on n'a aucune nouvelle, on n'a rien,
voilà.
On n'a pas de plan.
Je pense, Michel, que c'est ça surtout qui inquiète les gens qui peuvent se demander est-ce que je devrais être prioritaire selon mon état de santé. Que ce soit Élise qui me dit les trisomiques devraient absolument être priorisés. Les études scientifiques prouvent qu'ils sont très à risque et certains pays l'ont fait. Élise doit avoir quelqu'un là, qui est trisomique dans sa famille. Ou Michel, à qui on vient de parler, ou Lina là, qui gère ce genre de patients, de personnes et qui va devoir les transporter avec tout ce que ça veut dire aussi quand on est polyhandicapé. Je me tourne vers vous, Benoît Mas, professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce que je dois appeler mon médecin de famille? Il y a des gens qui l'ont fait, le médecin de famille, il dit, ben là, moi, je ne sais pas. Il y en a même qui se sont fait dire par le médecin de famille, écoute, appelle à ton CLSC. Le CLSC dit, attendez qu'on vous donne des indications. Si vous avez rien comme info, c'est parce que vous n'êtes pas sur la liste des prioritaires. On dirait que les indications ne sont pas très claires. Peut-être qu'on n'est pas assez patient, mais c'est sûr que là, ça fait tellement longtemps là, qu'on se dit, mon Dieu, quand est-ce que ça va venir? Ça commence à faire... Là, on est février, ça fait déjà quelques mois qu'on nous promet un vaccin. À un moment donné, ça serait le fun que ça arrive pour vrai, Benoît Mas. Qu'est-ce qu'on peut dire pour... Moi, je voudrais rassurer les gens qui nous écoutent d'une certaine façon, là, puis leur donner des réponses.
Oui, ben, je pense qu'une des choses que le gouvernement ne veut pas faire, c'est promettre des choses, puis après ça, obligé de reculer. Alors, si vous vous souvenez, là, il y a 2-3 semaines, on a quand même eu des nouvelles de Pfizer, Moderna, dire finalement, les doses qu'on vous a promis, on pourra pas vous les livrer, hein, il va y avoir des retards, et ainsi de suite. Alors, si on se place, là, je veux pas défendre le gouvernement, là, mais si on se place du côté du gouvernement, c'est difficile de faire des plans lorsqu'on a vraiment des grandes incertitudes sur les livraisons, les doses, puis quand ça va arriver. Là, après ça, on a appris plus tard, Moderna, oui, il va remplir son mandat, sauf que ça pourrait arriver tout vers la fin mars. Alors, c'est sûr que là, dans ce temps-là, je comprends, là, Serge, Lina, Michel, de se dire, oui, j'aimerais savoir, et je comprends pour eux, c'est vraiment crucial de savoir quand. Même si on appelle son médecin présentement, le médecin, je pense pas que les médecins le savent plus.
Non, parce ils savent pas.
Ouais, parce qu'au gouvernement, le plan de dire, ben OK, une fois qu'on aura un peu plus d'informations sur vraiment les doses qu'on va recevoir, quelle fréquence, là, on va pouvoir dire, OK, là, c'est voilà, là, on prévoit faire tel plan de vaccination pour tel groupe. Certains États américains, par exemple, ont des calculateurs de prévoir quand est-ce que vous allez être vacciné, par exemple. Alors, vous entrez votre date de naissance, vous entrez certaines informations, puis là, va vous dire, ben là, selon les informations que vous avez données, vous devriez être vacciné dans le coin du je dis une date, le mois de juin. Mm-hmm. Mais c'est sûr que ça il faut avoir de l'information sur ce qu'on va recevoir. Et là, c'est ça l'incertitude. Et même au gouvernement, et vous savez, c'est pas le provincial qui contrôle les doses. Hein.
Non, c'est le fédéral. Et là, ce qu'on a su la semaine dernière, c'est que le Canada allait recevoir 400 000 doses à peu près. Ça, c'était la semaine dernière qu'on nous a dit. Cette semaine, en théorie, si ces chiffres-là sont toujours bons, ils s'attendaient à recevoir au Canada 475 000 doses. Puis après ça, on nous dit, on parle de Pfizer, là. Après ça, le fabricant a dit on va livrer à peu près 440 000 doses par semaine au mois de mars. Là. Donc là, ça voudrait dire en fait que on pourra. Mais là, après ça, il faut les dispatcher. Il faut les envoyer à chacune des provinces. C'est pas 400 000 doses au Québec, là, c'est 400 000 doses dans le pays. Donc.
Faut les livrer. Ouais. Faut les
entreposer. Celui de Pfizer, ça prend du froid, hein, on l'a compris. Ouais.
Alors, c'est certain que là, ça donne un peu plus de précision au gouvernement du Québec, savoir, OK, là, on a une certaine certitude sur le nombre de doses, ils peuvent organiser un peu mieux, dire, OK, là, on peut monter peut-être en priorité certains groupes, et ainsi de suite.
Parce qu'en fait, là où j'allais vous amener, c'est toute l'inquiétude des variants. Elle va baisser, cette inquiétude, à mesure que le nombre de personnes vaccinées va augmenter, là.
Oui, effectivement, parce que ce qu'on veut viser, là, c'est vraiment lorsqu'on aura vacciné là, 15, 20 ou 25 des Québécois. Évidemment, on vaccine les plus à risque, les plus âgés, et ça va désengorger de beaucoup les hôpitaux. Alors, les hôpitaux vont aussi prévenir des décès, et non seulement prévenir des décès, mais aussi des séquelles graves. On survit à la COVID, mais il y en a qui restent, ce qu'on appelle la COVID longue, il y en a qui restent avec des séquelles assez longtemps. Et évidemment, il va y avoir moins de pression sur le système de la santé. Oui, le virus ou le variant risque de circuler, mais avec beaucoup moins de conséquences. Mais quand même, on est à peine à 3,5% des Québécois vaccinés. Faudrait se rendre quand même à 15, 20 ou 25% et ça va prendre plusieurs semaines avant de se rendre là. Mais c'est certain, comme vous dites, une fois qu'il y a moins de conséquences là, de la transmission au Québec, ben là, c'est sûr, même les groupes là qui sont beaucoup moins à risque, là, les 50 ans et plus, là, ben oui, on va vouloir se faire vacciner, mais peut-être pas autant que présentement, où là, on se dit, ouais, ben là, il y a beaucoup de transmission. N'oubliez pas, on est encore dans un couvre-feu, hein, quand même. Ouais. Je veux dire, on n'est pas déconfiné, là, on est excessivement confiné. On va voir aussi une certaine ouverture, là, déconfinement. À un moment donné, là, on peut espérer, là, déjà à la fin avril, mi-avril, avec beaucoup moins de pression sur les services de santé en termes de conséquences d'hospitalisation. et que là, on commence à déconfiner, puis même on commence à déconfiner pour de bon.
Oui, c'est ça. Donc, encore un mois de patience, là. C'est un peu ça là, qu'on conclut aujourd'hui. On en parlait en première heure d'émission. On avait aussi un spécialiste qui nous disait probablement autour du 22 mars pour un déconfinement, probablement pas avant ça, puis peut-être même 22 mars ou deux semaines après Pâques si on veut encore se garder une petite gêne à Pâques, là.
Oui, parce qu'il faut bien comprendre, la vaccination, c'est pas instantané, le bénéfice.
Non, c'est ça.
Ça prend 2-3 semaines, donc c'est sûr, même si on vaccine énormément de personnes à la fin mars, le bénéfice vient plutôt à la mi-avril.
Très, très rapide question avant de vous laisser aller, Benoît Mas. Une question intéressante d'un auditeur qui dit, le vaccin protège la personne qui le reçoit. Est-ce que ça empêche que cette personne le transmette?
Bon, les indications qu'on a présentement, c'est qu'il est fort probable que les vaccins qu'on a présentement préviennent la transmission, mais pas à 100%. Là. Et ça serait excessivement surprenant que les vaccins qu'on a présentement font juste prévenir la maladie. Par contre, on n'a pas de chiffre exact, là, mais on pense là, présentement que on a certaines évidences qui prévient aussi la transmission, mais probablement pas complètement.
Oui, ouais, exact. OK, d'accord. Ben voilà, ça nous avance beaucoup. Merci beaucoup, Benoît Mas. Toujours merci. Intéressant. Professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Vous savez qu'un de mes groupes préférés, c'est Séparé. Daft Punk. Ça, pour tous les X, là, c'est sûr que ça résonne. Ça a déjà été ma sonnerie de cellulaire. Puis en même temps, il y a un lien parce que Get Lucky, c'est un hymne national, mais en ce moment, c'est un peu le sentiment de tous ceux qui voudraient bien avoir un vaccin. C'est prends ton tour puis compte-toi chanceux. Alors, un petit peu de Daft Punk. Et après, on va parler du poids lourd que peut représenter un prénom. À tout de suite.